Dans le désordre insolite.
Le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est quoi, Caroline ?
Le thème de l'émission porte sur Élisée Reclus.
Comment tu l'as monté, cette émission ?
À l'occasion de la seconde édition du livre de Ronald Grieg, Les États-Unis d'Élisée Reclus, à l'atelier de création libertaire cette année, en 2019, j'ai proposé à Ronald de venir le présenter à la librairie Terra Nova, ce qui s'est fait début octobre 2019, bien sûr. Et j'ai utilisé l'enregistrement qui a été fait alors afin de construire mon émission. Bonsoir, on vient ce soir pour présenter Ronald.
Ronald Gray.
La seconde édition de ton livre, Les États-Unis d'Élisée Reclus. Alors Ronald, tu es né en Alexandrie, en Égypte, on peut dire l'année 1929. Tu as été enseignant à l'université Paul Valéry à Montpellier. Dans quel département ?
Études américaines.
Tu es un écrivain franco-britannique assez prolifique. Tu as écrit notamment plusieurs livres sur différents thèmes tels que l'anarchie, les États-Unis, l'utopie et Élisée Reclus.
Tacco et Vanzetti.
Tu as participé à la création ou tu as écrit divers articles pour différentes revues, notamment Divergence que tu as créé en 1997, Réfraction, et tu as créé ou participé au site RA Forum.
Oui, le site RA Forum là, actuellement est un petit peu en veilleuse parce que je suis à la recherche d'un informaticien ou d'une informaticienne qui pourrait me le remettre parce qu'il y a quelques bugs et j'ai des problèmes pour trouver quelqu'un qui ne soit pas des renseignements généraux si possible.
Donc, est-ce que tu peux nous dire au moins juste quelques mots sur les revues ?
Oui, alors la revue Réfraction est une revue là dont vous avez des exemplaires qui doivent être montrés quelque part là dans la librairie. Vous jeterez un œil dessus. C'est une revue qui paraît deux fois par an, qui est une revue de réflexion. Donc, elle ne traite pas nécessairement toujours de l'actualité. Ce sont toujours des numéros sur des thèmes précis. Là, actuellement, là-bas, nous sommes le comité de rédaction. Nous sommes à peu près 22 personnes avec des opinions très différentes les uns des autres, ce qui est passionnant, évidemment. Le prochain numéro, je ne me rappelle plus exactement ce quoi il sera. Le dernier numéro était sur le problème des alliances au point de vue des anarchistes avec d'autres mouvements. Est-ce qu'on perd son âme ou pas ? Là, nous préparons un numéro, mais qui devrait paraître au début de l'année prochaine. Actuellement, on parle beaucoup de la collapsologie, n'est-ce pas, de la fin de la planète, etc. Donc le numéro sera aussi là-dessus. Ce sera un numéro avec une pluralité d'articles qui vont analyser le phénomène. Comme vous verrez, il y a eu un numéro sur l'art, art et anarchie. Il y en a eu sur des thèmes extrêmement divers et puis bon, de temps en temps aussi des articles. Il y aura d'ailleurs dans le prochain numéro un article aussi sur les gilets jaunes, non pas fait par des gens qui sont à l'extérieur, mais par des gens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes. C'est une revue qui est peut-être quelquefois un peu dure à lire parce que quelquefois les textes ne sont pas toujours, sont quelquefois un petit peu académiques, mais c'est vraiment une revue de qualité très intéressante, je crois, et je vous la recommande bien.
Et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Pierre qui va nous lire.
Je vais vous lire un texte d'Élisée Reclus lui-même qui est tiré d'un bouquin qu'il a fait qui s'appelle « De l'esclavage aux États-Unis ». Le code noir et les esclaves.
C'est dans l'annexe 2 du livre « Les forces des États-Unis d'Élisée Reclus ». Tu veux
dire Dans les plantations du Midi, les missionnaires itinérants sont plus rares. Et d'ailleurs, leur présence ne serait guère tolérée par les créoles, qui depuis longtemps se méfient de tous les voyageurs, indistinctement. Les nègres ne peuvent assister au service religieux de la secte à laquelle ils appartiennent, à moins qu'ils n'habitent dans le voisinage d'une chapelle ou d'une église. Cependant, il ne saurait se passer de rites religieux quelconques. Les planteurs eux-mêmes savent que leurs nègres ont besoin d'une exaltation périodique pour s'étourdir sur les misères de l'esclavage. Un soir, j'étais présent à l'une de ces fêtes, et mon âme en est encore navrée. À quelques mètres de la véranda, sur un tonneau renversé, était juché le prêcheur larmoyant, éclairé par une torche fixée à une colonne de la maison. Il n'avait point de Bible, car il ne savait pas lire, et d'ailleurs, la Bible est proscrite. Mais, dans une espèce de pose extatique, les genoux à demi fléchis, les mains jointes élevées à la hauteur de la poitrine, les yeux fermés, la tête rejetée en arrière, il récitait, ou plutôt chantait, d'une voix lente et plaintive, des lambeaux de prières, des vers estropiés, des restes d'hymnes appris de quelque autre nègre dans une plantation du Nord. « Oui, s'écriait l'esclave, avec la plus étrange naïveté, vous êtes riche, vous êtes puissant, vous avez de l'or et de l'argent, et vous roulez sur les pierres précieuses. Vous avez des voitures et des chevaux, et toutes les joies de ce monde. Tous vous envient. Mais souvenez-vous que cette nuit même, votre vie vous sera redemandée, et vous serez damné à tout jamais. Vous irez dans l'étang de feu et de soufre, vous serez brûlé du feu qui ne s'éteint point, et rongé du ver qui ne meurt point, tandis que le pauvre nègre ira dans le sein d'Abraham et sera consolé par le bon Dieu de ses misères et de ses souffrances. » Les paroles de l'esclave me faisaient frissonner. Elles me semblaient retentir comme un premier appel à la révolte et au massacre. Mais elles étaient tellement entrecoupées de hoquets et chantées sur un récitatif tellement étrange que le sens en était presque complètement perdu pour les auditeurs. Et d'ailleurs, les maîtres n'eussent jamais daigné comprendre les allusions naïves faites par le misérable esclave. Ainsi, même du fond de cet affreux avilissement, du sein de ces cérémonies religieuses, dans lesquelles les esclavagistes voient une de leurs meilleures sauvegardes, surgit une voix prophétique de vengeance et de rétribution. Ces 4 millions d'hommes, si doux et si paisibles, aujourd'hui, peuvent dans un avenir prochain se relever avides et farouches. Défendus par le frein du travail, la terreur organisée, les divisions intestines des nègres, les mœurs sociales, le gouvernement et les puissantes corporations religieuses, l'iniquité de l'esclavage peut avoir une fin, car elle porte en elle-même le germe de sa propre destruction.
Merci. Je vais donc d'abord commencer par une introduction qui va un peu vous gêner, parce que j'espère que vous êtes confortablement assis, mais nous allons nous mettre psychologiquement dans notre imaginaire debout, parce que pour comprendre Reclus, il faut quitter ce monde. Vous savez, vous vivez déjà dans plusieurs mondes, n'est-ce pas ? Il y a le monde familial, il y a le monde virtuel de l'Internet, il y a le monde de l'entreprise. Et dans chaque monde, il y a son système de croyances basé sur nos imaginaires collectifs. Et nos différents mondes, là, il semblerait même que dans l'hypothèse actuelle qui semble assez fondée, il semblerait même que notre univers se trouverait dans d'autres univers. Donc, vous voyez, nous sommes très très peu de choses, et pour comprendre justement Élisée Reclus, on dit Élisée Reclus l'anarchiste, Élisée Reclus le géographe, Élisée Reclus c'est pas ça. Élisée c'est beaucoup plus que tout ça. C'est quelqu'un qui s'identifie avec les êtres qu'il voit, qui s'identifie avec la nature, qui est en communion avec elle, qui sent que l'homme est continuellement influencé par elle et qu'il influence la nature aussi. Il a écrit cette phrase extraordinaire, n'est-ce pas, que l'homme et la nature, l'homme, l'individu, les femmes aussi, bien entendu, et la nature à l'état pensant. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi, comme incorporation de la nature. Et c'est un homme que j'ai découvert par le récit de son voyage aux États-Unis. Je ne suis absolument pas géographe du tout. Dire qu'il est géographe, oui, peut-être, mais il ne faut pas oublier une chose, n'est-ce pas ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers d'ultra-spécialisation où le médecin pour les yeux ne connaît rien à la médecine du nez, n'est-ce pas ? Et le médecin du nez ne connaît rien à la médecine de la gorge, même s'il s'appelle otorino, mais quand on arrive à des points avancés, chacun a sa spécialité. Nous sommes dans un univers tellement hyper-spécialisé aujourd'hui qu'on ne regarde plus le monde que par le petit bout de la lorgnette, par le mauvais bout de la lorgnette, et que les groupes, les différentes collectivités militantes qui existent, je ne les énumérerai pas, sont chacune enfermées dans leur système de credo et en lutte contre les autres systèmes de credo, n'est-ce pas ? Donc je pense qu'il faut qu'on fasse éclater tout ça et que nous ne soyons pas ce que Proudhon appelait des monomaniaques. Élisée Reclus, pour le comprendre, c'est ça. Il faut entrer dans l'univers, dans les univers multiples où nous sommes, communier avec tout ça. Et la deuxième question, évidemment, je vous parle d'Élisée Reclus, la deuxième question, évidemment, pourquoi parler des États-Unis ? Parce que les États-Unis, ils sont aussi dans l'imaginaire français comme ils sont dans l'imaginaire mondial. Dès la découverte des Amériques, n'est-ce pas ? C'était pas d'abord les États-Unis, n'est-ce pas ? C'était les Amériques. Il y a eu ces rêves, la recherche des trésors, de l'eau de jouvence, des tas de monstres. Et les populations rêvaient de tous ces univers mystérieux dont on parlait avec des choses extraordinaires qu'il y avait, y compris d'ailleurs des monstres qu'il y avait aussi dans les Amériques. Et puis ensuite, il y a eu les États-Unis, avant même encore la naissance des États-Unis, il y a eu les missionnaires qui sont partis dans les Amériques et ça a amené une révolution au sein de la population et des mentalités, parce qu'en particulier, il y avait les jésuites, et les jésuites observaient les mœurs des Indiens, et ils se servaient des mœurs des Indiens, où ils voyaient évidemment des rois, des reines, et des princes et des princesses, pour faire la critique de l'aristocratie française, pour faire la critique de la cour, etc., parce qu'on n'osait pas la faire directement. Et ils envoyaient donc à leurs supérieurs des comptes rendus de leur mission. Les supérieurs corrigeaient naturellement, arrangeaient les textes. Et ensuite, c'était envoyé au curé dans les différentes paroisses de la France et probablement aussi dans d'autres pays. Et c'était lu en chaire. Il y a donc eu comme ça toute une discussion sur les missions, les missionnaires, etc. Et il y a eu la fameuse controverse de Valladolid où on s'est posé la question, est-ce que les Indiens sont les Américains, enfin les Indiens d'Amérique, est-ce que ce sont des êtres humains ou des animaux ? Et on est arrivé à la conclusion, oui, ce sont des êtres humains. Par contre, on n'a pas parlé des Noirs, comme par hasard. Donc, il y a eu cette présence déjà des Amériques dans la mentalité, dans l'imaginaire collectif de beaucoup de populations en Europe. Et ensuite, il y a eu la naissance des États-Unis. Et la naissance des États-Unis, ça a été aussi quelque chose à laquelle la France a participé, puisqu'il y a eu Lafayette, n'est-ce pas, qui a participé à leur guerre d'indépendance. Et ensuite, il y a eu, en France, évidemment, il y a eu la royauté qui est revenue après la Révolution française, il y a eu l'Empire, et la démocratie américaine était servie, au contraire, par l'opposition en France, comme modèle pour faire la critique du gouvernement français au XIXe siècle, c'est-à-dire la royauté, l'Empire, etc., parce qu'on n'osait pas le faire très directement. Donc il y a eu un certain nombre de grands écrivains qui ont parlé des États-Unis sous des angles très divers. Il y a eu Saint-Jean de Crèvecœur, qui était un paysan français, mais qui avait vécu, un gros paysan quand même, qui avait vécu aux États-Unis et qui a publié une étude aussi sur les États-Unis. Ensuite, il y a eu de Tocqueville qui a écrit sur les États-Unis et sur la démocratie en Amérique, qui est encore enseigné aujourd'hui aux États-Unis dans les universités. Et puis, il y a eu Chateaubriand qui a écrit évidemment quelque chose de beaucoup plus imaginaire, parce qu'il n'a jamais été aux États-Unis, il était allemand, sur les Indiens et tout ça. Et il y a eu Élisée Reclus qui a également fait des analyses extrêmement importantes sur les États-Unis, mais qu'on a radiées à cause de ses idées anarchistes, lorsqu'il est devenu anarchiste beaucoup plus tard.
Revolution. Got the revolution. Old generation got old. One generation.
Donc, les États-Unis, ça fait partie, encore aujourd'hui, de notre imaginaire collectif, avec les idéologies du néolibéralisme, de l'individu qui doit s'auto-promouvoir, s'auto-financer, ou créer sa propre entreprise, etc. Je pourrais vous raconter des tas de détails très simples, comment les mœurs françaises sont en train de changer sous ces influences. Par exemple, avant, après mai 68, les étudiants entre eux s'embrassaient, maintenant on se tape, n'est-ce pas, sur la main. Alors, jamais, jamais avant ne s'asseyait sur un trottoir, maintenant on s'assied sur les trottoirs. Enfin, je veux dire, des tas de petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien et qui montrent comment les imaginaires dominants viennent s'installer dans les autres pays. Donc voilà les raisons pour lesquelles c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce que c'était que les États-Unis pour Élisée Reclus. Alors, il faut, très rapidement, alors je vais vous donner d'abord le plan que je vais suivre. Je vais d'abord vous parler donc quelques éléments très courts sur l'enfance d'Élisée Reclus. Ensuite, je vais parler de la Louisiane où il va arriver. Ensuite, de son analyse de la guerre de Sécession. Et puis, finalement, de son regard général et de son impact et de ses relations avec les États-Unis. Voilà en gros les trois points que je vais traiter plus ou moins en détail. Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est que Élisée Reclus naît dans une famille très particulière, Sainte-Foy-la-Grande. Son père est un pasteur protestant qui vient de rompre avec l'église protestante où il est et qui va s'occuper au contraire d'une communauté de croyants protestants, mais qui est très pauvre et ils vont être une famille vraiment mais dans la misère, mais misère totale. Sa mère, au contraire, vient d'une famille extrêmement aisée. Elle est apparentée au duc de Decazes, n'est-ce pas, qui est dont le fils sera le fondateur de Decazesville, qui était pendant longtemps une région de mines, etc. Donc une femme extrêmement cultivée. Elle a connu son mari pasteur parce qu'à un moment donné, il était bibliothécaire dans la bibliothèque du château de Decazes, où la maman, elle, allait lire tout, n'importe quoi et tout. Elle était très ouverte et très cultivée. C'est Élisée est le quatrième enfant, mais en fait, il y en a déjà deux qui sont morts. Et elle en aura, en tout, en comptant les fausses couches, 24 enfants. Vous imaginez la pauvre femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors, la famille est tellement pauvre que ce sont les grands-parents qui vont prendre Élisée jusqu'à l'âge de 8 ans chez eux. Et Élisée va s'amuser comme un fou avec, il y a une rivière, il va apprendre à nager tout seul, il va aller en barque, il va s'échapper de la maison par la fenêtre pendant que le grand-père dort. Et c'est là qu'il fait vraiment cette découverte de la nature et qu'il s'identifie avec elle. Puis, comme c'est un grand admirateur de son frère aîné qui s'appelle Élie, comme Élie de Cazes, qui était son parrain, et que Élie va devenir pasteur, lui aussi veut devenir pasteur. Donc on l'envoie en Allemagne, dans un collège protestant en Allemagne, dans l'église réformée, les frères Moraves. Et là, il va rencontrer des Allemands, des Anglais et d'autres nationalités, donc apprendre beaucoup de langues et s'initier. Puis ensuite, il va revenir en France. Et puis, il est né en 1830. Quand il va revenir en France en 1848, c'est les grandes révolutions qu'il y a de 1848. Et ce qui se passe, c'est que, il va commencer déjà à avoir beaucoup de doutes sur sa vocation. Enfin, avec son frère, ils vont quand même aller au séminaire de théologie de Montauban. Mais ils vont sécher les cours, ils vont partir jusqu'à la Méditerranée à pied depuis Montauban. Et quand Élisée voit la mer, il est tellement ému qu'il mord son frère à l'épaule jusqu'au sang. Tellement il vit tout ça, il vibre dans tout ça. Et puis alors ensuite, ils reviennent, et puis Élisée, évidemment, me dit, moi je ne veux plus être pasteur, sans son frère non plus, et voilà. Grand drame, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans la famille. Et Élisée, n'ayant pas d'emploi, va repartir de nouveau chez les frères Moraves pour être enseignant, mais il va profiter aussi pour passer à Berlin, où il va écouter un cours de géographie qui va beaucoup l'impressionner par un des grands géographes allemands. Il va revenir et bon, pour lui, son destin maintenant, il veut être agriculteur. Il a décidé ça, d'être agriculteur, et il arrive en France et il retourne donc chez lui. Et lorsqu'il y a le coup d'État de Napoléon III, en 1851. Alors, avec son frère et puis les jeunes du village, il décide d'aller monter en protestation jusqu'à la municipalité pour protester contre le coup d'État de Napoléon. Et donc, ils font un manifeste, évidemment, et puis ils partent le lendemain. Donc, deux frères marchent devant, puis tout d'un coup, ils se retournent, il n'y a plus personne. Alors, évidemment, bon, c'était plus la peine d'aller jusqu'à la municipalité. Ils reviennent donc chez eux. Évidemment, tout le monde sait connaître l'histoire. C'est une famille quand même, le pasteur, et puis sa mère qui est vénérée dans le village. Quand on dit madame, il s'agit de madame Reclus. Elle était appelée pas simplement par son nom, madame, tellement c'était quand même un couple respectable et respecté. Alors le maire va envoyer quelqu'un pour dire, là, les passeports des deux jeunes gens, il faut qu'ils quittent la France avant d'être mis en prison. Donc, les deux frères partent en Angleterre et ils vont rester là pendant un certain temps. Élisée va vivoter, d'abord en Angleterre, puis va en Irlande. Et puis, finalement, il décide de partir pour les États-Unis et il va s'embarquer comme aide-cuisinier sur un bateau. Bon, à l'époque, il faut quand même 2 mois de voyage, on ne sait jamais si on arrivera ou pas. Et il paraît que, d'ailleurs que dans la famille, on a raconté que bon, probablement les gens ne devaient pas manger tellement bien parce que Reclus était déjà à cette époque-là végétarien, parce qu'il avait vu tuer un cochon et ça l'avait tellement bouleversé qu'il ne voulait plus toucher à la viande. Donc il arrive en Louisiane en 1854. Et il avait un petit mot pour des gens qui sont originaires de Sainte-Foy-la-Grande pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir trouver un petit quelque chose, et il ne trouve personne. Donc il est obligé de travailler comme docker pendant quelques temps, probablement quelques jours, une ou deux semaines peut-être. Bon, c'est quelqu'un qui a un petit complexe parce qu'il est petit, il n'est pas très très grand, pas comme tous ses frères qui sont très très grands. Il est un peu complexé, mais il est très fort parce qu'il croit que il faut garder toutes ces forces que l'humanité a eues à différentes époques, etc. Et donc, il va donc travailler comme docker, mais ça le crève, il a du mal quand même. Jusqu'au moment où, bon, il y a une communauté française à la Nouvelle-Orléans, n'est-ce pas? Parce que beaucoup, beaucoup de Français sont allés en Louisiane. La Louisiane a été vendue illégalement d'ailleurs par Napoléon Bonaparte pour une somme qui a surpris les Américains parce qu'ils s'attendaient à une somme beaucoup plus élevée. Et il faut savoir d'ailleurs que la Louisiane à l'époque, qui appartenait, quand elle appartenait à la France, ça allait depuis la Louisiane actuelle jusqu'au Canada. Et que toute la partie qu'il y avait pratiquement entre les Appalaches et les montagnes rocheuses, toutes ces histoires de cow-boys, etc., de l'époque, c'était des Canadiens français, c'était pas des Américains qui allaient avec les Indiens et tout ça, quoi. Donc beaucoup d'histoires qu'on nous raconte ont été reprises et réappropriées par les Américains, alors que c'était en réalité les Québécois, les Canadiens français. Donc, Élisée Reclus, grâce à un médecin dont il fait la connaissance, va être recruté dans une plantation, une des plus belles plantations de Louisiane, qui s'appelait Félicité, du nom de l'épouse. Son père, enfin son oncle, avait été gouverneur de Louisiane. La plantation de l'oncle avait été appelée, avec des noms, on l'appelait le Nouvel Élysée, mais alors non pas Élysée Reclus, bien entendu, mais les Champs-Élysées, etc. C'était considéré comme la plus belle plantation de Louisiane. Et Félicité aussi était une très belle plantation qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, n'est-ce pas, et qu'on peut visiter. Je ne sais pas s'il se rappelle de Reclus, mais bon. Donc Reclus va être là et va avoir 2 ou 3 enfants dont il va s'occuper comme tuteur. La famille le reçoit avec beaucoup de courtoisie, mais il y a la distance de la richesse, etc. Et Reclus va, Élisée va aller voir les Noirs, parce que la communauté noire de Louisiane, ce n'est pas simplement des esclaves. Il y a aussi les Noirs affranchis, qu'on appelle aussi des créoles. Les Français de Louisiane, on les appelle aussi créoles. Alors, il y a les créoles blancs et il y a les créoles noirs. Mais les créoles noirs, c'est des gens extrêmement cultivés qui publient des revues, qui ont même une académie. La première poésie de langue française parue en Louisiane a été publiée par des créoles noirs. Élisée Reclus, quand il va publier son livre sur la nouvelle géographie universelle, le tome qui est sur les États-Unis, dans les années 1890, va dire les Noirs, à l'époque, là, quand il écrit, là, dans ce que je dis, il parle des nègres encore, mais ce n'est pas dans son esprit péjoratif. À l'époque, mais quand il va publier, il dit les Noirs, ils veulent être appelés Afro-Américains. Or, le terme Afro-Américain n'est revenu au grand jour qu'à partir des années 1950-1960. Or, Reclus, déjà, a conscience de cela. Il y a des journaux qui sont lancés par des journaux, des revues, etc., qui sont lancés par des Français de Louisiane, mais aussi par des créoles noirs, parce que le français reste la langue dominante jusqu'à la guerre de sécession. Reclus va également aller dans le Mississippi. Il est un grand marcheur, je ne sais pas jusqu'où il a été, mais en tout cas, il a été jusqu'au lac. Je ne sais pas s'il a fait tout ça à pied, parce que c'est quand même des centaines de kilomètres, mais il a regardé tout ça, il a écrit d'ailleurs aussi sur le Mississippi. Voilà Reclus qui va faire donc cette découverte, d'une part de l'esclavage, d'autre part, des différentes communautés qu'il y a aux États-Unis, va se mettre en contact. Alors, il y a beaucoup de Français exilés. Il y avait déjà eu, jadis, des exilés aristocratiques qui étaient allés aux États-Unis pendant la Révolution française et un petit peu après. Puis, il y a donc ceux de 1848, ceux de la Révolution de 1848, qui sont venus aussi, un certain nombre d'entre eux, qui publient aussi des journaux, etc., y compris des journaux pour essayer de mettre la démocratie en France. Et à propos justement là de Napoléon III, n'est-ce pas, il y a un moment donné, un de ces journaux-là, je crois que c'était le Courrier des États-Unis, qui écrit, ou qui avait une devise qui s'intitulait « Tu peux tuer cet homme en toute tranquillité », à propos de Napoléon. Donc, il y a des mouvements de contestation internationaux qui sont à la base de ce qui sera plus tard d'ailleurs aussi, le mouvement ouvrier international. Donc, Élisée est en contact avec tous ces gens-là. On lui propose d'avoir le patron de la propriété, le mari, lui propose éventuellement de prendre une plantation et de pouvoir partager évidemment l'argent et les finances avec lui, etc. Mais lui ne veut absolument pas avoir d'esclaves. Il va donc partir pour la Nouvelle-Grenade, comme on l'appelait à l'époque. Il va être très malheureux là-bas pour beaucoup de raisons que je n'entrerai pas dans le détail. Il va presque mourir de faim, être très malade. Et finalement, il n'aurait même pas l'argent pour être rapatrié en France. C'est sa famille qui va le rapatrier en France. Alors le voilà en France, sans argent, sans emploi. On l'emploie dans un ou deux choses, mais ça ne lui plaît pas du tout. Et ce qui va se passer, c'est que il va quand même se marier. Il se marie alors qu'il est sans emploi. Bon, il y a quand même la promesse de Hachette, l'éditeur Hachette, qui va l'employer. Et voilà que Reclus va devenir le spécialiste des États-Unis, qui va écrire dans la Revue des Demandes, qui est à l'époque une revue quand même, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est une revue très importante. Il va écrire sur la guerre de sécession des articles extrêmement intéressants. Alors qu'on a fait beaucoup l'analyse de la guerre de sécession vue par Karl Marx, on n'a jamais fait d'analyse de la guerre de sécession vue par Élisée Reclus. Il y a deux perspectives vraiment totalement différentes. Parce que pour Karl Marx, ce qu'il va regarder surtout dans la guerre de sécession, c'est la justification de ses théories. Et puis en plus, évidemment, il écrit pour des publics différents. Il écrit d'une part pour un journal qui paraît aux États-Unis et d'autre part pour un autre journal qui paraît en Autriche, où d'ailleurs il est censuré et il finit aussi par arrêter d'écrire. Alors que Élisée Reclus va écrire dans la Revue des Deux Mondes. Alors ce qui se passe, c'est que la France, devant la guerre de sécession, est quand même relativement divisée. C'est-à-dire que les pouvoirs français, comme les pouvoirs anglais, souhaiteraient effectivement que le pays éclate, les États-Unis éclatent, parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour la France d'aller au Mexique, etc., et pour les Anglais d'aller ailleurs, et puis l'Amérique du Sud, qui est aussi très tentante. Donc, en fait, ils n'osent pas le dire, mais ils sont plutôt pour les pro-esclavagistes. Alors qu'en fait, évidemment, l'opposition en France, et même, paradoxalement, c'est tout à leur honneur, le milieu ouvrier, sont pour l'indépendance des esclaves. Et alors, d'autre part, Marx va beaucoup faire l'analyse, justement, de la libération des esclaves, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse surtout, c'est de savoir que les esclaves vont rejoindre la classe ouvrière, donc ça va justifier tous ces problèmes, etc. Alors que Reclus, lui, va faire une analyse très, très, très précise du système de domination des esclaves, comment les maîtres essayent de se justifier, comment se s'établit des hiérarchies parmi les Noirs des États-Unis, les Afro-Américains. C'est des analyses extrêmement pointues qu'il fait. Et en plus, alors que Marx reste quand même assez eurocentrique, Reclus, lui, va dire « Ah ben écoutez, si les États-Unis ne produisent plus le coton, eh ben ce sera l'Égypte et l'Inde qui prendront leur place et ce sera beaucoup plus international ». Donc, vous voyez, deux perspectives qui se veulent globales, une vision globale du monde, mais avec des approches radicalement différentes. Donc, il va être considéré comme un des grands spécialistes des États-Unis. C'est lui aussi qui travaille donc à faire les guides Hachette de l'époque. Donc, il va voir toute l'Europe centrale, etc. C'est paru dans un des livres que j'ai écrit, « Les lettres à sa femme », qui s'intitule « Lettres à Clarisse ». Et ensuite, ben, il va avoir, donc, quand il y a la guerre de sécession, il va consulter les ouvrages et la documentation au consulat des États-Unis qu'il y a à Paris, ambassadeur plénipotentiaire, qui va lui fournir des documents, etc. Et après la guerre, les États-Unis vont se montrer, l'ambassadeur va se demander, il faut qu'on soit reconnaissant à Élisée Reclus. Mais Élisée Reclus vient de se lancer dans la Commune de Paris, puis dans la fondation du mouvement anarchiste, il a été expulsé de France, etc. Ben, les Américains vont quand même lui envoyer de l'argent qu'il a décidé qu'il va distribuer à des gens qui sont dans la nécessité. Il a des rapports avec beaucoup d'Américains parce qu'il vit avec son épouse et son frère et sa belle-sœur et leurs enfants. Ils vivent ensemble dans un même logement. Il partage aussi avec un certain nombre d'autres personnes, y compris des étudiantes des États-Unis qui sont là et qui vont elle aussi, et il y en a une en particulier, qui va être très très liée avec les Reclus et qui va écrire à son père, qui est un grand éditeur aux États-Unis, qui va donc raconter avec ses yeux à elle comment elle a vu la Commune de Paris, qu'on a une histoire de la Commune de Paris plus ou moins racontée par Élisée Reclus, bien que Élisée Reclus ensuite va aussi financer un ouvrage important sur la Commune de Paris. Et lorsqu'il y aura la pétition auprès du président de la République après la guerre franco-prussienne, ce sont des géographes anglais, surtout, qui vont intervenir auprès du président pour que... Il dit, on ne peut pas l'envoyer quand même en Nouvelle-Calédonie, vous avez là une sommité, donc flatté dans un certain sens malgré tout. Donc le président décide qu'il sera expulsé simplement et il choisira le pays où il veut, donc il va aller en Suisse. En Suisse, il va participer avec le mouvement naissant, le mouvement ouvrier naissant, enfin le mouvement ouvrier a déjà commencé, l'association internationale du mouvement ouvrier a commencé avant et lui il était dedans déjà. Il a même rencontré Karl Marx à Londres et là il va participer très activement à la création du mouvement anarchiste dans les années 1872 et 1878, ce qui va faire qu'on va, alors après l'avoir adoré en France, il va être la personne proscrite qu'on ne mentionne plus jamais ou très très peu, ce qui n'empêche pas qu'après sa mort en 1905, eh bien, il reste dans le concours qu'un journal lance en France, il reste un des Français les plus connus et les plus populaires. Et le gouvernement français, après avoir expulsé Reclus, a fait quand même à Paris une rue Élisée Reclus. C'est une des rues les plus chères de Paris, puisqu'elle se trouve à côté de la Tour Eiffel. Donc voilà un peu l'ensemble très très rapide de la rencontre d'Élisée Reclus avec les États-Unis. Ce que je voudrais dire donc pour conclure, parce que je vais donc vous faire ensuite une présentation maintenant de toute sa vie en images pour que vous ayez quelques compléments sur ce que j'ai fait un peu trop rapidement. Et en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est ceci, c'est que ce que nous avons à comprendre avec Reclus, quand nous communions avec ses livres, c'est que nous vivons dans des imaginaires multiples, nous vivons dans des mondes multiples, nous sommes que des gouttes d'eau dans le cosmos, mais ce sont des richesses que nous avons, et ce sont des richesses qui sont menacées par nos propres imaginaires, parce que ces imaginaires risquent toujours de devenir très étroits, telle forme de féminisme, telle forme d'écologie, telle forme de ceci et de cela, et on se bat entre nous, au lieu de regarder une vision globale du monde, ne pas être monomaniaque, mais comme Reclus, quelqu'un qui refuse d'être simplement un spécialiste, mais qui regarde le monde dans l'ensemble de ses dimensions. Merci.
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous les partisans. Salut à toi, Choli allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais. Salut à toi, l'irlandais. Salut à toi, l'européen. Salut à toi, le mongolien. Salut à toi, le hollandais. Salut à toi, le portugais. Salut à toi, le mexicain. Salut à toi, le marocain. Salut à toi, le libanais. Salut à toi, le pakistanais. Salut à toi, le philippin. Salut à toi, le jamaïcain. Salut à toi, le guyanais. Salut à toi, le togolais. Salut à toi, le guinéen. Salut à toi, le guadeloupéen. Salut à toi, le congolais. Salut à toi, le sénégalais. Salut à toi, l'afro-cubain. Salut à toi, le portoricain. Salut à toi, la haute volta. Salut à toi, le Nigeria. Salut à toi, le Gaboni. Salut à toi, le vieux ch'timi. Salut à toi, Che Guevara. Salut au comité de soldats. Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides. Salut à toi, la Bertaga. Salut aussi à la Panda. Salut à toi, le punk anarchiste. Salut à toi, skin communiste. Salut à toi, le Liberia. Salut à toi, le Sri Lanka. Salut à toi, le Sandiniste. Salut à toi, le Légendiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi, Guatemala. Salut le BK du contingent. Salut à toi, le Chotokan. Salut à toi, peuple Kanak. Salut à toi, Tchécoslovaque. Salut à tous les petits dragons. Salut à toi, qui est que bon. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le peuple bac. Salut à toi, qui est au violon. Salut à toi, les Morocons. Salut à toi, le Yougoslav. Salut à toi, le voyou slave. Salut à toi, le Salvador. Salut à toi, le Molodoy. Salut à toi, le Chinois. Salut à toi, le Zaïrois. Salut à toi, l'Espagnol. Salut à toi, le Ravachol. Salut à toi, le Hongrois. Salut à toi, l'Iroquois. Salut aussi à tous les Gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à Koutou, les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi, le peuple corse. Salut aux filles du Trésor. Salut à toi, la Vache-Kiri. Salut à Lorraine et à Salut à tous les Kamawas. Salut à toutes les verticales. Salut aussi à Yuri Brainer. Salut à toi l'handicapé. Salut Jeunesse du monde entier.
Vous avez dit qu'à Londres, qu'il avait financé un ouvrage sur la commune de Paris. C'est le Lissagaray ou c'est un autre ouvrage?
Non, c'est celui de Lissagaray.
C'est celui de Lissagaray.
Oui, il a financé l'ouvrage de Lissagaray sur la commune de Paris. Mais il faut dire que Élysée a été arrêté, il a fait une dizaine de prisons. Il a été arrêté avant les grands événements de la commune de Paris. Et dans les différentes prisons où il était, il se mettait à parler avec les autres prisonniers, à leur enseigner des langues, à leur apprendre à écrire et des tas de choses comme ça. On avait tellement peur de son influence qu'en le changer continuellement de prison, d'une prison à l'autre, etc. Et comme c'était quand même une personnalité remarquable, comme par hasard, il y avait des gens du gouvernement qui venaient pour le visiter, pour voir un peu. On lui a d'ailleurs proposé de le libérer à condition qu'il renonce à ses idées, et bien entendu, il les a envoyés paître. Je pense que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement actuel, parce que, son point de vue, c'est déjà, il n'emploiera jamais le mot écologie, mais c'est déjà quand même très important. Et il a une vision de l'univers à la fin de sa vie qui est extraordinaire, parce que bon, au début, il croit d'abord que c'est le progrès, et puis après, il change quand même, il nuance beaucoup son approche là-dessus. Et pour lui, il explique comment l'univers est un chaos qui s'auto-organise, n'est-ce pas ? Et ce chaos, tout d'un coup, il y a des changements, l'émergence d'un chaos plus complexe et l'émergence de la complexité. Je veux dire, il est déjà en avance sur les théories actuelles du chaos, et pour lui, l'anarchie, il la voit comme ça aussi. C'est pas du tout un dogme, c'est pas du tout une doctrine, c'est vraiment les hommes qui s'organisent entre eux pour essayer de créer des communautés, puis s'ils ne sont pas à l'aise dans une communauté, ils la quittent et ils vont vivre avec d'autres communautés, avec d'autres gens qui pensent comme eux. Il y a actuellement dans le monde énormément d'alternatives qui se présentent. Moi, je ne suis pas d'accord du tout quand on dit un autre monde est possible. Je crois qu'il faut dire des milliers d'autres mondes sont possibles. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est d'une part cette fragilité de ces expériences alternatives et l'importance pour elles de travailler ensemble, même s'ils ne sont pas d'accord sur des objectifs finaux. Il y a toujours des coopérations qui peuvent se faire, il y a toujours des ententes. Il faut casser nos imaginaires collectifs, nos credos collectifs, pour essayer de s'ouvrir à l'univers.
Quelle était sa vision de la nature, sa conception de la nature?
Sa vision de la nature.
Sa conception.
Bah, au départ, quand il est enfant, pour lui, la nature, ça parle de Dieu. C'est clair. Il écrit des belles lettres là-dessus pour montrer comment les nuages ou les rivières lui parlent de Dieu. Et sa conception de la nature, c'est aussi d'être dedans, à fond. Ce n'est pas simplement d'en parler. Donc, pour lui, par exemple, c'est aussi un précurseur du naturisme. Il pense que les vêtements, c'est bon pour l'hygiène du corps. Je pense que les vêtements, c'est un peu une hypocrisie. Donc, lui-même, souvent, va se mettre tout nu. Par exemple, quand il revient d'Allemagne avec son frère et qu'ils sont dans les forêts, ils sont avec un chien, et puis ils ont perdu le chien, les voilà à poil en train de courir dans toutes les forêts, là, pour retrouver leur chien, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a le respect, justement, aussi, par exemple, des paysages aussi. Il parle beaucoup de la découverte de l'importance que le paysage doit être le reflet, et puis de l'homme, etc. Il pense que la montagne, par exemple, ça peut être aussi un lieu de liberté, parce que on sent encore quand on est en train de grimper. On ne le sent pas quand on est en train de marcher dans une ville, n'est-ce pas ? Sauf quand on prend de l'âge. Mais sinon, donc, la montagne, pour lui, c'est aussi un des lieux de refuge où les gens peuvent être beaucoup plus libres. Mais il n'est pas simplement positif, parce que, par exemple, il pense, à l'époque, que les Suisses et les gens qui sont là-dedans, du côté des Alpes, sont idiots parce qu'ils ont des problèmes de la thyroïde, n'est-ce pas, qui leur viennent justement du climat. Ce n'est pas donc une critique des Suisses ni des gens des Alpes. C'est le problème dramatique qui peuvent se poser aussi. Pour lui, quoi, le paysage. Alors, justement, par exemple, le paysage, pour lui, la géographie, c'est une hérésie d'apprendre la géographie aux enfants avec des cartes. Là, il a été obligé de les faire, les cartes, parce que c'est l'éditeur Hachette qui les voulait. Mais sinon, lui, pour lui, il faut aller sur le terrain, il faut regarder une rivière, il faut regarder un lac, il faut regarder un étang, et à partir de là, avec les enfants, essayer de voir qui a vécu ici, comment est-ce que cet étang s'est formé, comment cette rivière s'est formée, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir, comment est-ce qu'on pourrait l'orienter autrement, et ainsi de suite. Donc, c'est un dialogue perpétuel avec la nature, parce que la nature nous façonne, mais nous aussi, nous la façonnons. Et donc, il y a aussi une esthétique du paysage, une beauté du paysage. Et d'ailleurs, Reclus a influencé un certain nombre de peintres impressionnistes, comme Pissarro, par exemple, donné un certain nombre de ses tableaux, de ses peintures aussi, enfin de ses dessins, pour les revues anarchistes de l'époque.
Okay, we're rolling. Baby, won't you tell me, take one. You're giving me the blues.
to hide. Someday someone's gonna tell your child, don't you know you was born to die. Woo! Big mama, with your head so high.
Your big mama,
with your head so high. Someday someone's gonna tell your child, don't you know you was born to die. Oh, you keep on messing with the plumbing in my heart. Even star. Woo. Woman, keep a messing with the plumbing in my heart. You keep on messing with the plumbing in my heart. You break it, baby. Oh, well, before we even start.
Just rock it for a while.
Je tiens à remercier Ronald pour avoir répondu favorablement à ma demande de venir présenter son livre à la librairie Terra Nova. Je remercie toute l'équipe de Terra Nova et je remercie particulièrement Jean-Pierre Quéré pour avoir lu si magnifiquement le texte d'Élisée Reclus que vous retrouverez en annexe 2 du livre de Ronald. Je dédie cette émission à Jean-Pierre Labarthe que je voyais toujours casquette vissée sur le crâne, lunettes de soleil, sac à dos, et qui a tant arpenté les États-Unis et qui a beaucoup écrit sur eux aussi.